Ligne droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h35. Voilà, nous avons réalisé déjà 3 entretiens. J'espère que tout ce que vous avez entendu vous a plu, vous a intéressé. On essaie de varier un petit peu les sujets, les angles. Merci d'être avec nous. Dans une dizaine de minutes, nous recevrons Régis Le Sommier pour son analyse. Mais dans un instant, nous allons passer à la chronique de Jean-Eudes Ganin.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ligne droite.
Eh bien, nous recevions une personne de la Sarthe il y a un instant. C'est désormais quelqu'un du Maine-et-Loire, plus précisément de Segrit en Anjou bleu que nous recevons. Bonjour Jean-Eudes Ganin. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, alors il y a peut-être un petit problème de son, pardon. On va réessayer. Dans tous les cas, vous en faites pas, chers auditeurs. Je suis désormais habitué depuis cette rentrée quelque peu chaotique à reprendre à devoir improviser absolument à cette antenne. Donc ne vous en faites pas. Simplement pour ces élections sénatoriales, simplement pour le préciser. Donc c'est la dernière élection qui se déroulera avant l'élection présidentielle donc de 2027. C'est la dernière élection locale aussi avant la présidentielle. On renouvellera donc un tiers du Sénat, comme ça se passe en réalité tous les deux ans. L'enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte que voilà, les élus de chaque parti, justement, les candidats à chaque parti, finalement, reçoivent les suffrages des conseillers municipaux. Donc c'est un type de campagne qui est tout à fait différent de ce qui se fait d'habitude. Sur les échéances électorales locales, il y a aussi un point qui n'est pas négligeable non plus, qui est qu'à partir de 2028, théoriquement, auront lieu les élections régionales. Donc ce sera encore un sujet dont on parlera, mais la présidentielle, ça nous fera suffisamment de travail. Jean-Eudes Ganin, désormais, est avec nous. Bonjour Jean-Eudes.
Bonjour Richard, comment allez-vous ?
C'est pas Richard ?
Ah, pardon, c'est Alexandre.
Bah oui, 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 oui. Ah là là, oui, terrible.
À la voix, le temps de me rappeler le son de votre douce voix. Bonjour, bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs. Je vous prie de m'excuser pour mon retard. Il a fallu que j'emmène mes enfants à l'école ce matin.
Écoutez, c'est une excellente excuse en cette rentrée, Jean-Eudes Ganin. Je pense que personne ne vous en voudra. De quoi vouliez-vous nous parler ce matin ?
Eh bien écoutez, je voulais vous parler des élections. Je ne suis pas le plus républicain de la bande, ni le plus électoraliste, mais j'ai assisté hier, avant-hier, à une commission citoyenneté et égalité des chances, et l'abstention a été le sujet de la fin de la commission. Et l'une de mes consoeurs, devrais-je dire, je ne sais pas, une élue municipale, quelqu'un a proposé en tout cas, que l'on fasse une cérémonie avec une remise des cartes d'électeurs pour les jeunes, pour essayer d'éveiller en eux le civisme. Je crois que c'était une intention tout à fait louable, parce que ça émanait en plus de quelqu'un qui est plutôt à droite, qui ne voit pas peut-être, ou qui ne réalise pas qu'en réalité le meilleur remède à l'abstention, ce serait d'abord l'efficacité des hommes politiques, le fait qu'ils tiennent leurs promesses. Et puis accessoirement le patriotisme aussi, parce que l'abstention, je ne sais pas si vous allez voter vous par exemple, Alexandre, je ne vous demanderai pas qui, parce qu'il nous faut voilà. Un secret de l'isoloir, c'est très important, mais irez-vous voter ?
J'ai tendance à ne pas être, comme vous le dites, le plus républicain de la bande non plus, mais j'ai tendance à penser que ça coûte pas grand chose d'aller effectivement dans les urnes pour au moins essayer de choisir ce qu'il y a de moins pire.
Eh bien écoutez, je comprends tout à fait ce raisonnement, et j'ai voulu disséquer un petit peu les raisons de l'abstention suite à cette commission. Alors je crois que la raison principale, c'est que les gens ont l'impression que ça ne sert à rien. Voilà, ils en ont marre d'être trahis. On cite à raison et ad nauseam la grande trahison du traité de Lisbonne, bien sûr, qui est venu pour remplacer contourner le non à la Constitution européenne. Et d'une manière générale, les gens ne se sentent pas représentés. Je crois que le scrutin majoritaire aux législatives y est pour beaucoup. Parce que quand il n'y a pas de proportionnel au Parlement, eh bien forcément, les gens ne se sentent pas représentés. ils pensent que ça ne sert à rien, ou tout simplement, bien souvent, parce qu'il ne faut pas trop disculper nos concitoyens, je dois dire, de la situation dans laquelle nous sommes, tout simplement, bien souvent, ils n'ont plus le sens civique nécessaire. Ils se moquent peut-être en grande partie, hein, pour certains, du sort, du destin du pays, et leur individualisme cantonne leur vision de la politique à l'aune de leurs petits intérêts individuels. Je pense que voilà, il y a aussi beaucoup de cela dans l'abstention. Et puis, bon, c'est à titre personnel, mais je pense que je ne suis pas seul. Je pense qu'il y a aussi du mépris pour les petits marchands du monde politicien. Voilà. Même si ce n'est pas exprimé clairement, instinctivement, on sent quand même une grande absence, chez la plupart d'entre eux, une grande absence de courage, de vision, de culture. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est l'absence de naturel, que je trouve vraiment déconcertante, hein, chez dans notre personnel politique, toute étiquette confondue, à l'exception peut-être de l'extrême gauche, mais on sent vraiment qu'il y a un discours qui est formaté et qu'il y a une absence de... C'est amusant d'ailleurs, dans une société aussi individualiste que la nôtre, de voir qu'il y a une absence de pensée individuelle et de personnalité individuelle. Voilà. Donc on a évidemment de légitimes raisons de ne pas aller voter. Et on peut penser que ça ne sert pas à grand chose d'aller voter, voilà, sans doute est-ce le cas.
Mais oui, j'allais dire, Jean-Luc Ganev, sur le fait que ça ne serve pas à grand chose, je sais que c'est un commentaire que je lis beaucoup chez nos auditeurs depuis quelques temps, c'est que en réalité il y a aussi un doute sur le pouvoir du politique aujourd'hui, dans le sens où on se dit est-ce que c'est vraiment le président de la République ou tel député qui va gouverner, est-ce que c'est pas finalement tel lobby qui va avoir du pouvoir. Certains disent que c'est l'Union européenne qui décide de tout. En réalité, finalement, les gens soit ne croient plus dans la volonté des politiques de changer les choses, soit ils ne croient plus dans la possibilité de ces mêmes politiques de changer les choses, disant qu'ils vont se mettre dans tous les cas aux mains des uns ou des autres. Et d'une certaine façon, on pourrait même utiliser cet argument d'une manière qui est peut-être plus proche de votre manière à vous de penser, en disant qu'ils doivent dans tous les cas se mettre dans la main d'un électorat spécifique, pourquoi pas effectivement les retraités, pourquoi pas une autre catégorie de la population, que dans tous les cas, la démocratie fait qu'on peut pas vraiment agir pour le bien du pays dans l'état actuel des choses.
Ah mais je suis mille fois d'accord, et vous savez, je ne suis pas, n'étant pas un pour la démocratie représentative à l'échelle nationale, à l'échelon national, je suis évidemment contre la criminalisation de l'abstention, voilà, qui est d'ailleurs parfois en vogue un peu dans notre famille d'idées. Moi, personnellement, je comprends qu'après l'aide tacite apportée par le RN, par exemple, à la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, ou alors le soutien de quasiment toute la droite à la constitutionnalisation de l'avortement, on ne ressente pas vraiment l'urgence à courir aux urnes pour des députés que l'on découvre très peu combatifs sur tous les sujets importants. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, et si l'on considère que voter ne sert à rien, il y a une question à se poser tout de même. C'est à quoi sert l'abstention ? Elle n'est pas prise en compte. Elle n'est pas prise en compte, et d'ailleurs en grande partie parce que nos élites jouisseuses se foutent absolument qu'on s'abstienne ou non. Voilà. Elles ne se sentent pas responsables, vous voyez. Il fut une époque, peut-être, où des responsables politiques se seraient dit qu'avec 50% d'abstention, il fallait se remettre en cause, démissionner, arranger les choses. Mais ce n'est plus le cas. Ainsi donc, l'abstention seule, sans manifestation ni activisme de masse, ne sert absolument à rien. Parce que, moi encore, on aurait une position d'Action française du début du siècle où on dirait « n'allez pas voter, l'élection ne sert à rien, mais on en ferait de la politique ». Bon, pourquoi pas. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et quitte à être désengagé et lâche au quotidien, mes chers concitoyens, allez voter. Oui. Allez voter parce que, quoi que vous pensiez de vos élites, elles ne sont en réalité que notre propre reflet. Voilà. On a beau jeu de dire du mal de ce qui se passe dans la vie publique quand on fait preuve d'insuffisance à l'échelle individuelle et quand on refuse de s'engager localement. Voilà. Et puis surtout, la politique, c'est une affaire de symboles. En politique, disait Le Pen, père, ce qui paraît existe. Et je persiste à penser que, par exemple, si le RN arrivait au pouvoir, ce serait une forme de petite tsunami dans la vie politique, dans la vie médiatique en tout cas, pas dans les faits. Hein.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, pardon Jean Guéna, mais dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, même si on ne croit en aucun d'entre eux pour sauver le pays, il y a sans doute quand même une gradation en termes de dangerosité pour le pays, si on veut prendre ça à contrario.
Bien sûr, et puis voilà, l'élection du RN, ce serait quand même l'occasion de voir un certain nombre de digues et de sujets tabous qui sauteraient. Voilà, alors bien sûr, moi je vous le redis, je suis convaincu que dans les faits, ceci ne changerait quasiment, mais quasiment aucun des paradigmes actuels qui régissent la vie politique. Je pense que ce serait du macronisme avec un petit peu plus de politique sécuritaire, voilà. On ne nettoierait pas la magistrature, il n'y aurait pas de grande révolution, et sur la plupart des sujets, souveraineté, immigration, antiracisme, poids de l'État sur l'économie, mise au pas des lobbies dont nous parlions, des puissances d'argent, des sectes, etc., on ne verrait pas grand-chose de différent. Mais une victoire du RN amènerait dans son sillage un certain nombre de personnalités compétentes, droites, honnêtes, qui œuvreraient, je pense, au bien commun à différents échelons. On pense notamment, vous voyez, à la commission d'enquête de Charles Alloncle, oui. Il y a eu des choses intéressantes, peu, mais quelques-unes quand même, qui valent peut-être le coup. Ou à minima, une élection du RN, les élus RN n'auraient pas la passion destructrice de la Macronie ou de la France insoumise. Voilà. Alors, je vois, lorsque je m'exprime, là, je vois un autre Jean-Eudes qui est en moi, qui est le Jean-Eudes de 20 ans, qui a toujours répliqué à tout le monde et qui continue de le faire d'ailleurs, que la politique du moindre mal est la politique des amoindries, lorsqu'on lui cite Maurras à propos de la politique du pire qui serait la pire des politiques. Voilà. Mais la réalité, il faut l'admettre pour le moment, ce n'est pas définitif, mais nous sommes notre camp, notre famille d'idées est une famille d'idées totalement amoindrie. Voilà. Ses représentants électoraux, la droite électorale, est désormais pro-mariage homosexuel, pro-avortement, pro-immigration. Pro-immigration, j'insiste. Hein, parce que quand on est pour l'assimilation en se disant contre l'immigration, quand on refuse de remigrer des millions d'immigrés pour les conserver sur notre sol, c'est exactement comme si on disait je suis contre le chômage, mais je veux garder des millions de chômeurs. Voilà. Vous pouvez enlever leur voile aux immigrés, ils restent des immigrés, ils ne deviennent pas français. Ce serait comme si vous disiez à des chômeurs que vous leur enlevez, je ne sais pas moi, les tarifs réduits dans tel parc d'attractions ou la carte de chômeur, ils étaient quand même chômeurs. Ce qu'il faut, c'est leur redonner du travail. Ce qu'il faut pour les immigrés, c'est leur redonner une patrie. Voilà. Et toute notre droite, elle est passée d'une adhésion à contre-cœur au mythe républicain à une espèce de passion républicaine et jacobine. Elle est prête à tout. Elle est prête à aller parler au Grand Orient. Elle est prête à se proclamer antiraciste. Elle est prête à fêter Hanouka. Elle est prête, on l'a vu au Ponté, la droite anti-immigration, hein, à aller inaugurer une mosquée sous des drapeaux turcs géants. Bref, ayant perdu sa substance et n'ayant aucune concurrence électorale vraiment anti-système, la droite est devenue ce que Maurras appelait, vous savez, les républicains modérés, c'est-à-dire le camp de ceux qui poursuivent le projet de transformation de la gauche, mais à vitesse moindre. Voilà. Or, je crois que Mélenchon peut gagner cette présidentielle, même face au RN, sur fond de réflexes antifascistes, voilà, vous savez, c'est un vieux sénateur socialiste, Mélenchon, ce n'est pas le révolutionnaire qu'on croit, et il ressortira très vite les violons, SOS racisme, Harlem Désir, etc. Voilà. Et donc, dans ces conditions, tant qu'on n'a pas mieux, je considère que autant aller voter pour essayer d'ouvrir un nouveau cycle politique, et surtout, je terminerai là, mon cher Alexandre, pour en finir du coup avec les illusions. Je comprends que les gens en aient marre du RN, je comprends qu'en voyant le Grand Orient à l'Arc de Triomphe avec les militaires, les gens se disent que tout est tenu. Eh bien, précisément, dans ces cas-là, allez voter RN, dégonflons la baudruche, si vous n'y croyez pas, et peut-être pourrons-nous passer à autre chose.
Mais écoutez, un appel au vote de la part de Jean-Luc Guéna, c'est pas quelque chose que je pensais tout à fait entendre durant cette matinelle, mais écoutez, comme quoi on peut s'attendre à tout. J'aimerais bien la semaine prochaine, si jamais vous le pouvez, votre position sur cette question du port du voile qui est intéressante, qui suscite beaucoup de débats. Merci Jean-Luc Guéna d'avoir été avec nous ici ce matin, et on vous dit donc à jeudi prochain, ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la Ligne Droite.
Et pour ce nouvel entretien, comme chaque jeudi, nous recevons Régis Sommier. Bonjour Régis.
Bonjour Alexandre.
Alors bon, j'étais malade la semaine dernière, donc je n'ai pas pu vous accueillir pour votre rentrée. J'en suis désolé. Mais c'est un plaisir de vous retrouver comme
plaisir partagé.
Ici. Aujourd'hui, vous vouliez parler de Donald Trump et du pétrole. Alors, il s'est passé quelque chose de très étonnant au Venezuela.
Oui, il s'est passé quelque chose de très très étonnant, évidemment autour du pétrole. En général, quand on prononce le nom de Donald Trump, le terme pétrole est pas très éloigné. Ouais. Hein, c'est, ça fait partie d'une de ses, on va dire, marottes, ou pour certains de ses obsessions. Non, c'est très intéressant cette affaire vénézuélienne, qui à mon avis n'est pas assez commentée, et c'est pour ça que j'ai choisi de m'attaquer à ce sujet, parce que c'est fondamental dans la stratégie de Donald Trump aujourd'hui, et en particulier en prévision des élections de mi-mandat qui vont arriver dans quelques mois,
ouais.
Le président américain se trouve dans une posture un peu compliquée, on dira, avec notamment sa guerre en Iran et l'impossibilité dans laquelle il se trouve, ou la quasi-impossibilité de sortir de ce piège iranien, dans le sens que pendant les 40 premiers jours de cette guerre, vous savez, déclenchée le 28 février dernier, Donald Trump a, là c'était l'Amérique et Israël qui a imposé le tempo à l'Iran, et depuis cette fermeture du détroit d'Ormuz, avec toute la complexité et tout l'impact que ça peut avoir sur l'économie mondiale, pas au-delà des États-Unis, mais en incluant les États-Unis, notamment sur les prix de l'essence, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui l'Iran qui impose son tempo aux États-Unis, et j'en veux pour preuve la nuit dernière où vous savez, il y a toujours des échanges de tirs avec des ripostes.
Entre deux cessez-le-feu.
Voilà, et là, en fait, on s'arrête pendant la journée, on recommence la nuit. Dimanche dernier, les Américains ont détruit deux stations de missiles sur une des îles dans les eaux territoriales iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont riposté sur des bases américaines en Jordanie. Rebelote la nuit suivante, et là la nuit dernière les Iraniens ont continué à riposter, on dira, ou à envoyer des missiles balistiques sur des bases américaines, cette fois-ci au Koweït, et pour le moment il n'y a pas eu de riposte américaine. Donc Marco Rubio a indiqué que le temps militaire entre guillemets était révolu, et que l'Amérique allait revenir, ou en tout cas procéder à ce qu'on appelle une politique de pression maximale traditionnel qui existe sur l'Iran depuis des décennies. Vous savez, l'Iran est sous sanction depuis 47 ans. Et donc là, Donald Trump pense qu'il peut faire craquer le régime avec à nouveau des paquets de sanctions, en essayant de couper les cordons ombilicaux du régime iranien. Je veux dire, ses relations avec la Chine et la Russie. Tout ça... aujourd'hui agite beaucoup, et c'est à nouveau une tentative des États-Unis d'asphyxier l'économie iranienne, en sachant que ça a peu marché par le passé, et que même si l'Iran est dans une situation qui n'est absolument pas florissante, notamment au niveau économique, au niveau sociétal, à plein de niveaux, eh bien la guerre a renforcé, on va dire, les liens entre le peuple iranien et le régime, et par réflexe nationaliste, et ça c'est quelque chose que les États-Unis n'avaient pas prévu. En tout cas, c'est une nouvelle problématique, avec en plus, pour les gardiens de la révolution iranien, la saisine du détroit d'Ormuz, avec les perspectives lucratives de taxer les navires qui transitent, une manne qui pourrait s'élever à entre 50 et 80 milliards de dollars annuels, soit plus que le budget de l'État iranien. Donc quelque chose de tout à fait non négligeable, et qui pourrait permettre à l'Iran de sortir de la nasse, de sortir de cette position, on va dire, de pays ostracisé. Là, Donald Trump a l'intention, d'ailleurs ça s'appelle outcast, donc a exclu cette politique, c'est le nom qui a été donné, et donc l'idée c'est de refermer l'Iran et de le laisser comme il était avant, c'est-à-dire pays exclu. Or l'Iran aujourd'hui a compris qu'il était au centre du jeu, tant au niveau de l'Amérique que des pays du Golfe et des pays voisins. Américains, qui eux-mêmes ont compris les dangers que représentait l'Iran et ont décidé de s'unir, notamment avec un pacte de défense qui a été signé entre l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. Sous-entendu, les États-Unis ne sont pas capables de nous défendre, nous allons nous défendre nous-mêmes, oui. Nous allons tisser des alliances nouvelles dans la région, on peut plus compter sur eux, et si ce pacte sécuritaire doit inclure l'Iran, pourquoi pas. Donc, une nouvelle architecture régionale, on a parlé d'un OTAN du Moyen-Orient, bref, tout ça sont les conséquences de cette invasion, pas de cette invasion, de cette guerre décidée par Donald Trump le 28 février dernier. Alors je fais un long préambule pour situer, pour placer un petit peu les éléments, pour vous expliquer pourquoi je vais en arriver sur le pétrole vénézuélien. J'en arrive sur le pétrole vénézuélien parce que il s'agit pour Trump véritablement d'un cas d'école. Cas d'école qui correspond tout à fait parfaitement à la vision géopolitique des partisans de Donald Trump. Mmh. Donald Trump a été élu avec la promesse faite à ses MAGA, donc Make America Great Again, avec ses partisans et au-delà, de restaurer, non pas de restaurer la place de l'Amérique dans le monde, même si c'est un corollaire, mais surtout de placer l'Amérique d'abord.
Oui, ça c'est America First.
Ouais. Voilà, et America First, ça induit quoi ? Ça veut dire prospérité, ça veut dire puissance, mais dans un territoire limité, en tolérant que les autres aient leur sphère d'influence. Les États-Unis ont défini leur sphère d'influence avec l'Amérique du Sud, par exemple, en publiant leur document de sécurité nationale l'année dernière, expliquant que, en gros, on réactive la doctrine Monroe, qu'on a rebaptisée doctrine Donroe, parce que c'est l'ère de Donald Trump. C'est
simplement un mot sur, vous disiez, sur les priorités trumpistes. Aujourd'hui, le courant America First anti-Trump répète un petit peu en boucle, enfin donc du coup qui est, on va dire, de droite mais anti-Trump, répète l'ambition originelle de Donald Trump, c'était no wars.
Oui.
Et lower inflation.
Absolument. Et c'est lui
Donc, plus de guerre, baisser l'inflation.
Voilà. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Au contraire, moi, je reviens des États-Unis. J'ai passé 15 jours, notamment en Californie cet été. J'ai jamais vu la Californie aussi chère. Alors, on ne peut pas accuser exclusivement Donald Trump. Vous savez, les États-Unis, les États ont leur mot à dire sur l'économie, en particulier l'État californien, qui est presque un état dans l'état, on dira, parce qu'il avait vraiment des spécificités, mais on payait le gallon d'essence $6, alors qu'en général, il est autour de $4. Donc, imaginez quand même le poids sur le contribuable, et le coût de la vie est devenu extrêmement cher en Californie. Ce n'est pas le cas dans tous les états, mais globalement, les Américains, des sondages sont parus, ont l'impression de vivre moins bien sous l'ère Donald Trump que la précédente, d'un point de vue économique et d'un point de vue du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est notoire et c'est des éléments extrêmement, extrêmement importants pour les élections de mid-term. Le prix à la pompe de l'essence dans l'Ohio est déterminant, plus déterminant que le fait d'avoir vaincu ou non l'Iran. C'est ça qui va jouer et c'est ça qui va permettre à Trump de continuer son action ou au contraire de voir les démocrates s'emparer d'une ou des deux chambres, voire de démarrer des procédures d'impeachment contre lui. En tout cas, Donald Trump ne pouvant plus passer les législations telles qu'il voulait le faire jusqu'à présent, cette politique, on va dire, hyperactive qu'on a vue pendant deux ans,
et ultra présidentielle aussi, parce que ce qu'on observe, c'est que la Cour suprême donc invalide un bon nombre de ces décisions. Que d'ailleurs, c'est un sujet dont on avait parlé il y a une semaine ici avec un constitutionnaliste, Guylain Benessa, que vous connaissez aussi, mais le fait qu'en réalité la Cour suprême américaine est plus indépendante que le Conseil constitutionnel français, alors même que la Cour suprême officiellement est à majorité rouge, républicaine. Sûr. Donc effectivement, là, Donald Trump, c'est sûr qu'il doit sortir.
Rouge, mais ça veut pas dire qu'elle est totalement inféodée et qu'elle va faire tous les desiderata du président. C'est bien la particularité des États-Unis, c'est qu'il y a un vrai respect du pouvoir et des différents pouvoirs, justement, législatif, exécutif et judiciaire.
Mais il nous reste une minute avant le bulletin d'actualité, mais justement sur la fin de l'hyperprésidentialisation, je vais y arriver, et ensuite on part sur le Venezuela.
Oui. Voilà, bah, hyper-présidentialisation. Oui, mais ça, c'est le fait de Donald Trump qui a mené sa politique, on va dire, en écartant le Congrès, en le tenant informé pour ce qui est du Venezuela, l'opération Maduro. Il y a eu un débrief pour le fait devant le Congrès de cette opération, je crois, au moins 4 semaines après l'opération. Donc, le Congrès avait été tenu complètement dans l'ignorance de ce qui se passait, ce qui, je précise, n'était pas le cas, par exemple, au moment de la mort de Ben Laden ou de la mort de Baghdadi, c'est-à-dire quand des opérations d'importance mettant un terme à l'action d'un ennemi de l'Amérique, en général, les législateurs sont tenus au courant, ce qui n'est pas le cas. Donald Trump a passé outre, et là, il risque d'avoir des lendemains qui déchantent s'il perd les prochaines élections, et tout indique qu'il va les perdre. Ouais. Donc, on en parle après.
Ouais, effectivement. Alors, juste chers auditeurs, simplement, nous sommes toujours avec Régis Le Sommier. Simplement, nous avons besoin de faire un petit point sur l'actualité. Et ce point sur l'actualité, c'est avec Maïlys Clauzel.
Chez France Inter, le pluralisme a ses limites. Les personnels ont voté la grève pour réclamer le retrait de Charles Sapin, directeur adjoint de Valeurs Actuelles, jugé incompatible avec les valeurs du service public. Toutes les opinions sont les bienvenues sur les ondes de l'audiovisuel public, à condition qu'elles soient à gauche. Mmh. Et à Perpignan, un récidiviste de 51 ans a été condamné hier à 5 ans de prison ferme pour avoir volontairement provoqué 4 départs de feu cet été. L'un d'eux avait mobilisé 70 pompiers et un hélicoptère et brûlé 1 hectare de végétation près de Saint-Estève. Et l'Autriche veut inscrire dans sa constitution l'interdiction de l'islam politique. Le chancelier Christian Stocker le juge incompatible avec la démocratie et les valeurs occidentales et promet de le combattre par tous les moyens disponibles. « Je ne veux pas que nos enfants et nos petits-enfants grandissent dans un état islamique », a-t-il martelé. Et nous célébrons aujourd'hui Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église. Né à Rome vers 540, il abandonne une brillante carrière politique pour devenir moine, avant d'être élu pape en 590.
Merci Maïlys.
Ligne droite.
Et nous revenons avec Régis Sommier, il nous reste encore un bon quart d'heure. Régis, on va venir sur l'affaire vénézuélienne très directement maintenant. Donc, en moyenne aux États-Unis, le gallon, donc à peu près 4 litres d'essence, est passé en moyenne au-dessus des 4,1 $, qui est, c'est pas un niveau historique, mais en tout cas, c'est un niveau qui est quand même très important aux États-Unis. Ça représente jamais que 90 centimes d'euros pour eux, c'est
toujours
français,
extrêmement.
Mais pour eux, voilà, c'est quand même beaucoup plus important que ce qu'ils ont d'habitude. Fin août, donc il y a une semaine environ, Donald Trump a annoncé un accord historique avec une société privée qui s'appelle North American Blue Energy Partner, qui obtient donc des concessions pendant un siècle sur 17 champs de pétrole vénézuélien qui représentent 65 milliards de barils de réserves, soit en réalité le double des réserves connues aux États-Unis. Les États-Unis donc prennent 35% dans cette société et auraient un accès prioritaire à justement ce qui serait produit en termes de pétrole.
Oui, c'est ce qui a été annoncé par Dulcy Rodriguez, donc la présidente par intérim du Venezuela, celle qui a remplacé Maduro, qui était son bras droit et sur lesquels les États-Unis ont décidé de miser. Hein. On rappelle, c'est la fille d'un guérilleros, d'un révolutionnaire vénézuélien. C'est une personne qui était très très à gauche et qui était connue pour sa loyauté envers Nicolas Maduro. Bref, là, contrainte et forcée, elle a changé son fusil d'épaule et elle annonce justement cet accord. Vous avez noté cette société, donc cette société basée à la Barbade, donc la NABEP, North America Blue Energy Partner, qui est dirigée par un homme d'affaires qui s'appelle Alexandro Betancourt, qui est proche de des régimes de Caracas et du Venezuela. Comme vous savez, tout ce qui touche à Trump, il y a toujours un petit côté un peu sulfureux. Alors le personnage a fait l'objet d'enquêtes au Venezuela, en Espagne et en Suisse pour soupçons de corruption et blanchiment d'argent. On précise que il n'a pas été inculpé d'un crime d'aucune façon, mais en tout cas, voilà, le personnage traîne une odeur de poudre et bon, je sais pas si c'est de bon ton quand on parle de pétrole de traîner une odeur la odeur de poudre, mais en tout cas, ouais. Le dossier est potentiellement explosif. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est 65 milliards de barils.
Ouais.
D'abord, du point de vue strictement matériel,
on n'est pas prêt de les voir.
Même si il s'agit d'une réserve pour les États-Unis, donc on n'est pas nécessairement obligé de les exploiter. Mais l'état du pétrole vénézuélien, si vous voulez, qui avant la période socialiste, hein, donc avant l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir, dans les années 70, tournait autour de 4 millions de barils par jour. Donc le Venezuela à l'époque, au moment de la création de l'OPEP en 1960, il y avait trois pays qui étaient considérés comme les principaux producteurs mondiaux. Il y avait l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Venezuela. Ils avaient, les réserves à l'époque étaient estimées à un tiers. Bon, avec d'autres pays évidemment, mais en tout cas c'était et à l'époque, donc dans les années 70, quand le pétrole s'est développé, et là on peut pas donner totalement tort à Trump, vous savez, il avait utilisé, lui et Marco Rubio, cette rhétorique de dire on va reprendre le pétrole vénézuélien. On était là à dire mais attends, ils vont comment fouler aux pieds la souveraineté d'une nation, s'emparer de ses richesses, etc. Non, dans les années 70, ce sont bien les compagnies pétrolières américaines qui ont fait l'exploitation au Venezuela, et les États-Unis évidemment à l'époque étaient persona grata. C'était avant la révolution chaviste, et les États-Unis exploitaient, avaient créé cette industrie pétrolière vénézuélienne. Et donc là, quand Trump dit on va la reprendre, c'était pas complètement entièrement faux. Maintenant, première chose, quand je dis matériel, c'est la question de la qualité du pétrole vénézuélien. Il y a deux pétroles au Venezuela.
Excusez-moi, Régis, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Abordons d'abord cette question purement de la qualité.
Oui.
Et ensuite, il y a une question aussi qui se pose sur le régime vénézuélien, sur la question de
la démocratie,
la rente, etc.
Exactement.
Mais d'abord sur la qualité du pétrole.
Donc deux pétroles au Venezuela, hein, le pétrole de Maracaibo qui se trouve à l'ouest du Venezuela, qui est relativement exploitable, de bonne qualité et qui demande une petite remise à niveau quand même des infrastructures. Et le pétrole le plus important, c'est le pétrole sableux, un pétrole de bitume, on va dire, qui se trouve dans l'Orénoque, donc dans la vallée de l'Orénoque. Ça, c'est beaucoup plus dans la jungle, beaucoup plus difficile à exploiter, très visqueux, et qui va demander effectivement, s'il doit être exploité un jour, ce qui est pas sûr, des infrastructures. Cette manne pétrolière du Venezuela, elle avait été définie à l'époque de Chavez. Il y a des réserves énormes, c'est les plus grandes réserves du monde, mais c'est un pétrole qui n'est pas facile à exploiter. Ensuite, il faut comprendre que la période chaviste et celle de Maduro qui a suivi a créé, vis-à-vis de l'industrie du pétrole et du Venezuela, une situation qui est comparable à celle de l'Algérie. C'est-à-dire que vous avez des généraux, en tout cas généraux plus police, etc., etc., des organes, répressifs et des organes de sécurité qui sont très proches du pouvoir et qui ont pris la main, qui ont préempté ces industries. Ils les font tourner. Aujourd'hui, le pétrole vénézuélien, c'est autour d'un million de barils par jour. Donc, vous imaginez quatre fois moins qu'avant l'époque socialiste. Mais ça sert à quoi? Ça sert finalement à... C'est une rente que s'étaient accordées les différentes institutions vénézuéliennes, la police vénézuélienne, l'armée, etc. Et il n'y avait pas besoin finalement de remettre vraiment à flot cette industrie. Et tant que ça marchait comme ça, ils avaient suffisamment d'argent et ils pouvaient, on va dire, disposer d'un monopole. Si on veut aujourd'hui passer à 65 milliards de barils et les exploiter, en tout cas en exploiter une partie, eh bien il y a une remise à niveau fondamentale à mettre en place, et en particulier dans les infrastructures. Et ça va coûter 100 milliards de dollars. Donc ça,
Faut expliquer aux auditeurs, il y a quand même En réalité, déjà des puits de pétrole qui existent, mais qui sont pas exploités, qui sont trop vétustes. Il y a déjà des, en fait, il y a déjà les forêts qui ont été posées,
oui.
Mais évidemment, avec le temps, avec les décennies, sans moyens, et eh bien tout s'est détérioré. Et mais donc, il faut reforer, soit remettre en
oui,
place les
puits. Vous avez des puits qui ont été arrêtés. Vous savez, quand un puits de pétrole, faut bien expliquer ça aussi. Un puits de pétrole, quand on l'arrête, c'est fini. Faut reforer à côté. Donc, ça redemande des infrastructures, ça redemande des investissements. Vous pouvez pas ouvrir un puits de pétrole, le fermer et dire on va le réouvrir.
Ouais.
Donc voilà, une partie de on va dire de l'industrie pétrolière vénézuélienne se trouve dans une situation on va dire extrêmement dégradée et 100 milliards de dollars. Alors ça peut être fait effectivement par notamment les industries pétrolifères de Louisiane en fait du golfe du Mexique qu'on appelle le golfe d'Amérique pardon maintenant.
Oui.
Excusez-moi.
Faut pas confondre avec le lac d'Amérique.
Oui. Et bientôt l'océan,
oui,
vous savez, comme il nous l'a promis.
Oui.
Je ne sais pas de quel océan il parle, mais
oui.
Bon. Non, mais tout ça pour dire que oui, l'industrie pétrolifère américaine a largement de quoi le faire. Maintenant, il faut les investissements.
Ah ouais,
est-ce que ça va venir? Surtout que vous avez souligné, je termine là-dessus, la qualité de Delcy Rodriguez. Elle est présidente intérim.
On y va juste après.
Elle n'est pas très légitime.
Non, voilà. J'allais vous poser une question sur ce sujet, mais avant, rappeler que quand même, 100 milliards d'euros pour effectivement, enfin de dollars pardon, pour tout remettre en état, c'est pas dit que ce soit tout à fait rentable non plus, c'est-à-dire que il y a quand même un problème avec la raréfaction des ressources qui se pose, c'est toujours du coût de revient de chaque litre de pétrole qu'on pompe en réalité, et si le pétrole actuellement...
Si le pétrole est très cher, c'est intéressant, mais sinon...
Oui, mais voilà. En réalité, effectivement, voilà, il faut... En réalité, ce qui est assez amusant, je sais pas, mais c'est que pour que le pétrole vénézuélien soit rentable autant que le pétrole saoudien, je crois qu'il faudrait attendre 20 ou 30 ans d'épuisement des réserves ailleurs pour que ce soit réellement rentable.
Okay.
Je reviens donc à Delcy Rodriguez. En réalité, là, Donald Trump, ce qu'il a fait, c'est qu'il a effectivement négocié pour l'Amérique une concession pour 100 ans.
Mmh.
Or, on sait très bien qu'il y a toujours le même principe qui se passe avec des pays qui sont moins stables, on va dire, qui sont souvent gouvernés par des dictatures ou autres, c'est que la parole du pays est liée à celle de son dirigeant et l'absence de continuité du régime, ça peut vouloir dire la révocation d'une telle concession. Vous l'avez dit, Delcy Rodriguez est présidente officiellement toujours par intérim depuis maintenant 9 mois. Pour combien de temps encore? On ne sait pas d'élection prévue, il me semble. En réalité, même s'il y avait des élections, est-ce que les opposants seraient autorisés à se présenter? La question mérite encore une fois d'être posée. Et dans le fond aussi, le vrai sujet, c'est, mettons, ce qui n'est pas improbable non plus, que la dictature vénézuélienne tombe, le peuple vénézuélien avalisera-t-il les décisions prises par cette même dictature pour se maintenir au pouvoir grâce aux États-Unis? Rien n'est moins sûr.
Non, il n'y a pas du tout de stabilité assurée. Maintenant, au vu des pratiques, et là je reviens à l'histoire, des États-Unis en Amérique du Sud, quand ils ont un pays dans leur escarcelle, ils mettent le paquet pour, on va dire, faire en sorte qu'il y reste. Aujourd'hui, il y a une véritable politique géopolitique américaine de conquête de l'Amérique du Sud. Ça a commencé par Javier Milei en Argentine. Ça se poursuit aujourd'hui avec le nouveau pouvoir en Colombie. Le Venezuela est à nouveau un domino plutôt une pièce de puzzle dans l'escarcelle américaine. Il reste qu'ils ont du mal à partir avec Lula et le Brésil qui leur reste hostile, mais l'objectif des États-Unis est clairement défini encore. Sur le document de sécurité nationale, et bien de faire de la Mare Nostrum, en fait, que la mer des Caraïbes soit leur Mare Nostrum, et que et bien la sphère d'influence des États-Unis,
c'est leur mer de Chine.
Il y a le Chili, pardon, qui aussi est rentré dans l'orbite américain.
Mm.
Et puis au nord, il y a peut-être le Groenland.
Mm.
En tout cas, ça fait partie de cette même théorie que les États-Unis veulent mettre dans leur sphère d'influence, tout en tolérant que les autres aient des sphères d'influence aussi. C'est ça la politique de Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense, et là c'est l'objet de ma chronique, enfin en tout cas de ma démonstration, je pense que s'il n'y avait pas eu l'Iran et que Trump avait fait ça avec le Venezuela, quelles que soient les difficultés à exploiter le pétrole, mais
L'important est qu'il ait mis la main sur ce pétrole-là. Je précise que ce pétrole-là, 10%, enfin, la quasi-totalité de ce pétrole-là, allait en direction de la Chine, dont il faisait 10% des approvisionnements. C'est quand même énorme. Imaginez le pays le plus peuplé du monde, qui est d'ailleurs lui-même cinquième producteur de pétrole au monde, mais dont la production ne suffit pas à satisfaire la consommation, donc il est obligé d'acheter du pétrole ailleurs. Et il prenait donc 10% de son pétrole au Venezuela et 15% à l'Iran. Donc, vous voyez, l'objectif de Trump était de faire la même chose avec l'Iran, c'est-à-dire de priver la Chine de 25% de son pétrole, ou en tout cas de faire en sorte que la Chine soit obligée d'acheter ce pétrole aux États-Unis. C'était ça l'objectif de Trump. Il a réussi à le faire quelque part avec le Venezuela, il a échoué avec l'Iran, arrivent les midterms où il doit présenter un bilan aux America, un bilan à tonalité America First, donc il va mettre en avant l'affaire vénézuélienne qui, je le dis et je le répète, aurait été à son avantage s'il n'y avait pas eu l'Iran. Je pense que l'opération qui a été faite, qui est quand même extraordinaire, d'hypocrisie, tout ce qu'on veut. On arrête Maduro au nom du fait qu'il est désigné par Marco Rubio et par Donald Trump aussi indirectement comme chef d'un cartel qui approvisionne les États-Unis en cocaïne. Ensuite, alors, pas Tren de Aragua mais un autre cartel, Los Soles, cartel qui n'existe pas d'ailleurs, composé de militaires vénézuéliens, des prébendes de militaires. Donc on remaquille chose.
C'est pas une corruption d'État, mais c'est une corruption qui induit des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires,
tout à fait,
etc. C'est pas généralisé.
Mais on fait de lui le chef de ce cartel. Il est appréhendé et on se rend compte que le chef d'inculpation qui lui est délivré à New York devant un tribunal du Bronx, je crois, de Brooklyn, c'est d'avoir créé un climat propice au trafic de drogue en fait. Donc il est plus chef de cartel, ça a changé. Depuis, vous notez Alexandre, on ne parle plus du tout de la drogue.
Non.
C'est fini. On est passé au pétrole quasiment immédiatement, c'est-à-dire que Donald Trump dès l'arrestation de Maduro n'a parlé que de oil. Et aujourd'hui, on a la concrétisation. Donc on est parti de la drogue, on a abandonné l'histoire de la drogue, on ne parle plus de Maduro, mais on parle de son pétrole.
Régis Le Sommier, est-ce que alors je sais pas si je dois vous inclure avec moi là-dessus, on va voir, mais est-ce qu'on s'est pas trompé nous-mêmes il y a quelques années quand on réfléchissait sur la question de Trump, etc., en se disant qu'effectivement, avec lui, peut-être que les guerres américaines pour le pétrole étaient terminées et que finalement, il allait recentrer le pays sur sa propre production de pétrole, etc. Est-ce que on n'a pas manqué de voir un petit peu cet aspect-là en une minute ?
En une minute, je pense que Donald Trump a pris conscience que la Chine avait fait main basse sur les terres rares dont elle possède environ 80% de l'exploitation au niveau mondial. Il a voulu être compétitif par rapport à ça. Je me souviens des accords conclus avec l'Ukraine pour l'exploitation des terres rares, le Groenland également, il y a une histoire de terres rares derrière. S'immiscer aussi dans la guerre entre le Rwanda et la RDC, pareil pour exploiter les terres rares, mais force est de constater que les Chinois sont déjà dans la place depuis très longtemps et que Donald Trump s'est dit, ma manière de leur damer le pion, c'est les hydrocarbures. Et à ce moment-là, on aura notre guerre économique, ou en tout cas, on aura nos deals avec la Chine. Bon, avec l'Iran, ça a échoué et ça met l'Amérique dans une position extrêmement périlleuse aujourd'hui parce que au niveau crédibilité militaire qui était, on va dire, en plus la colonne vertébrale de toute action américaine dans le monde, c'était la crédibilité militaire. L'Iran a réussi à faire démentir l'absolu de cette crédibilité et aujourd'hui, les États-Unis sont un acteur parmi les autres, mais font face à un certain déclin de leur puissance et extrêmement difficile à contrer pour Trump.
Et Régis Le Sommier, ce qui me fait penser que j'aimerais bien, à l'avenir, dans cette émission, qu'on puisse faire un jour, peut-être prendre une heure, je ne sais pas, pour faire un vrai bilan global de Donald Trump avant ses midterms. Je pense que c'est quelque chose qui est important.
On peut le faire, on aura le temps de le faire avant novembre, avec plaisir.
On aura le temps de le faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Et du coup, on vous dit bien sûr à jeudi prochain à notre antenne.
Bien sûr, avec plaisir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
Suivez la ligne droite.
La ligne droite, ça reprend dans quelques instants avec Benjamin Blanchard qui nous donnera sa chronique de l'Orient simplifié. Mais avant ça, Magda Hautefeuille, vous avez une minute pour nous parler de la gauche.
Et oui, encore une histoire de la gauche qui n'assume pas. Revenons en arrière dans les années 80. Le gouvernement socialiste de Laurent Fabius sait qu'un test de dépistage du VIH existe et permettrait de sécuriser les stocks de sang. Pourtant, pendant plusieurs mois, l'État laisse distribuer des lots non chauffés, potentiellement contaminés, notamment aux hémophiles. Plusieurs milliers de personnes seront infectées par le VIH ou l'hépatite C à cause de transfusions qui auraient pu être évitées. Quelques années plus tard, sur TF1, la ministre des Affaires sociales de l'époque, Georgina Dufoy, du Parti socialiste, prononce une phrase restée gravée dans les mémoires, responsable mais pas coupable. Le symbole absolu de l'irresponsabilité politique complètement assumée. La gauche qui se présente aujourd'hui comme la protectrice des plus vulnérables ferait bien de se souvenir qu'elle a son lot de responsabilités qu'elle se garde bien d'assumer, comme toujours.
Alors, il nous reste quelques secondes encore, décidément. Vous faites comme Maïlys hier, vous faites trop court.
Bah oui, voilà.
Travaillez plus, peut-être.
Ça s'appelle l'esprit de synthèse.
Voilà, oui, voilà. On va être gentil. Vous avez raison, Arnaud, il faut être bienveillant. Oui, charité chrétienne avant tout. Merci beaucoup, Magda Hautefeuille.
Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Eh ben, vous voyez, je préfère cette introduction sonore que celle de l'année dernière. Je trouve que ça fait un petit peu moins chaotique, plus mélodieux.
Tout le mérite en revient, Franck.
J'aime bien. Bah, très bien. Mais merci, Franck. Si tu nous écoutes. Donc, nous retrouvons Benjamin Blanchard. Bonjour.
Bonjour, Alexandre de Galzin.
Je rappelle que
ça faisait longtemps.
Oui, effectivement, depuis hier. Voilà, pour nos auditeurs qui n'étaient malheureusement pas là hier, je rappelle que vous êtes directeur de l'association SOS Chrétien d'Orient et que vous dirigez également une émission sur Radio Courtoisie.
Et nous n'irons pas très loin par rapport à hier.
Car nous restons finalement en Israël, ou pas loin en tout cas. Voilà, bon, allez, je commence très mal. Bon, donc vous revenez aujourd'hui sur la situation en Terre Sainte, mais cette fois côté Palestine, en Cisjordanie, plus précisément dans le village chrétien de Taïbeh.
Voilà, je crois que nous en avons parlé plusieurs fois à ce micro, mais la situation cet été a encore empiré à Taïbeh. Donc Taïbeh, c'est un petit village chrétien de 1208 habitants exactement. C'est le seul village entièrement chrétien de Cisjordanie et il a la particularité, qui n'est pas tellement spécifique à ce village, parce que c'est assez courant je crois en Cisjordanie, d'être entouré par quatre colonies israéliennes et par une multitude d'avant-postes de colons. Mmh. Et depuis cet été, les incursions sont devenues presque quotidiennes. Le père Bacha Faodale, qui est le curé de la paroisse latine, le dit tout simplement, je cite, « Pas un jour ne passe sans que des colons entrent dans le village pour provoquer ou agresser les habitants. » Et au mois d'août, les incidents se sont enchaînés. Alors on peut en citer quelques-uns, c'est loin d'être exhaustif. Le 5 août, deux colons pénètrent sur la propriété d'une famille chrétienne qui vient d'aménager une maison. Ils coupent la clôture et font entrer leur troupeau de moutons jusqu'aux abords de l'habitation. Le 12 août, nouvelles incursions. Un panneau solaire est endommagé, des clôtures sont forcées, des troupeaux sont conduits sur les terres des habitants. Un colon masqué est photographié avec un tuyau en plastique qui aurait servi à frapper des habitants. Et le lendemain, encore des clôtures démontées, des matériaux de construction volés dans une usine de béton et des moutons conduits sur des terres agricoles. Le 16 août, deux hommes masqués lancent des pierres contre les maisons d'une famille bédouine installée de longue date à l'est de Taïbeh. Le père de famille affirme avoir déjà déposé plus de 10 plaintes. Donc il est clair que ce ne sont pas des actes de violence isolés, mais organisés.
Et alors, face à ces agissements, l'armée israélienne a quand même réagi, notamment en déclarant Taïbeh zone militaire fermée le 10 août.
Oui, alors elle ferme Taïbeh et certains secteurs environnants à toute personne qui n'y réside pas, donc c'est-à-dire aux étrangers, mais également aux colons israéliens, enfin sur le papier. Donc l'armée annonce qu'elle interviendra contre toute violation de cette interdiction. Sauf que, qu'est-ce qui se passe les jours suivants, Alexandre ?
Ça recommence.
Ah, exactement, les colons continuent à entrer. Et donc, la question a été posée publiquement par le père Jacques Abed, donc c'est le curé grec melkite catholique de Taïbeh, parce qu'il y a trois paroisses à Taïbeh, il y a des orthodoxes, des grecs catholiques et des latins. Si cette zone est interdite aux Israéliens qui n'y résident pas, pourquoi les colons sont-ils toujours là ? poser la question, c'est déjà y répondre, puisque il faut bien avoir en tête que le gouvernement israélien, et notamment le ministre de la Sécurité intérieure, le fameux Itamar Ben-Gvir, dont nous parlons hier, est extrêmement favorable à la colonisation et pousse à la colonisation. Donc il n'y a aucune raison qu'ils empêchent réellement les colons de rentrer. Mmh. Et certains habitants soupçonnent même cette mesure d'avoir un effet pervers qui serait d'empêcher les journalistes et les observateurs internationaux d'accéder au secteur sans réellement, bien sûr, empêcher les colons d'y pénétrer. Le Daily Telegraph a notamment obtenu des images dans lesquelles des soldats israéliens expliquent devant la caméra qu'ils n'ont pas l'intention de déloger les colons. Et la situation est devenue suffisamment préoccupante pour que le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, se rende personnellement à Taïbé pour célébrer la messe de l'Assomption, donc le 15 août. Et le 16 août, donc le lendemain, le pape Léon XIV a également appelé à mettre fin aux violences répétées contre les Palestiniens de Cisjordanie.
Alors, derrière toutes ces exactions en apparence isolées, selon vous, quel est l'objectif des autorités d'occupation israélienne ?
Il est clair, et maintenant, il est de plus en plus exprimé. Alors, pas forcément pour Taïbé ou la Cisjordanie, mais on a entendu récemment des ministres qui parlaient de vider Gaza de ses habitants. Mmh. C'est un peu ce qu'ils essayent de faire pour Taïbé. Il faut regarder les terres. Taïbé possède environ 2400 hectares de terres cultivables. Or, selon les responsables locaux, les habitants n'auraient aujourd'hui plus accès à environ 1600 hectares. Donc 1600 hectares sur 2400 ne sont plus accessibles.
Les deux tiers.
Donc c'est à peu près les deux tiers du territoire agricole de la commune. Et la plupart de ces terres sont couvertes d'oliviers, c'est la culture locale principale. Donc si on empêche les habitants d'accéder à leurs terres, on les prive de leurs revenus. Il y a un habitant, Ramiz Al-Khoury, par exemple, qui raconte que sa famille produisait près de 200 gallons d'huile d'olive par an. Mmh. L'an dernier, ils n'en ont produit que 5.
Ah oui.
Voilà, donc avec 5 gallons, on imagine bien que cette famille ne peut plus vivre. Mmh. Et lui le dit très clairement, désormais il pense à partir parce qu'il a peur pour ses enfants. Et c'est ce que redoute le maire de Taïbé. Donc il est clair qu'on ne risque pas d'avoir les 1200 habitants chrétiens de ce village expulsés manu militari par l'armée israélienne. Mais par contre, si les habitants perdent l'accès aux oliviers
et aux terres,
ils vont partir de même. Et en fait, c'est quelque chose, c'est qu'un exemple en Cisjordanie. On le retient parce que c'est plus marquant, c'est un village chrétien. Donc ça nous touche plus particulièrement. Mais c'est une situation généralisée en Cisjordanie. Au premier semestre 2026, l'OCHA, donc l'Agence humanitaire des Nations Unies, a recensé plus de 1000 attaques de colons ayant provoqué des blessures ou des dégâts matériels dans plus de 230 villages palestiniens en Cisjordanie. Et selon le Times of Israel, donc c'est pas une organisation des Nations Unies, c'est pas l'OCHA, on peut pas dire que ça soit au service des Palestiniens, c'est un quotidien israélien. Les violences commises par les colons extrémistes auraient augmenté, c'est un pléonasme, auraient augmenté de 63% au premier semestre 2026. Donc voilà, moi je me pose la question si au-delà des condamnations hiératiques et lénifiantes, y a assez d'éléments. Y aurait-il assez d'éléments pour que notre inénarrable ministre des Affaires étrangères passe enfin à l'action ? Il paraît que parfois on met des sanctions sur certains pays. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'envisageable contre Israël et son gouvernement. Toujours en poste.
Oui, mais le problème, c'est que, comme tout le monde sait, c'est un pays qui ne fait strictement aucune ingérence, donc c'est très peu probable que ça arrive.
Voilà.
Merci beaucoup, Benjamin Blanchard, d'avoir été avec nous ce matin pour SOS Chrétiens d'Orient, pour parler de ces Chrétiens d'Orient de Taïbé. Et on vous dit, bien sûr, à la semaine prochaine, à notre antenne.
Merci, Alexandre de Galzin.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Alors Gilles,
Bonjour Alexandre.
Bonjour Gilles, je vous détestais que je rappelle que vous n'êtes pas ici en studio, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, vous n'êtes que par téléphone, mais je ne le dirai pas. Bon. Valeurs actuelles, titre, l'école libre contre-attaque en une de son dernier numéro.
Oui, alors Tuc Duhal-Denis, son directeur de la rédaction, passe à l'offensive. La liberté de l'enseignement constitue une liberté politique, écrit-il, d'une part véritable, et d'autre part, l'enseignement privé sous contrat doit être considéré non comme un concurrent toléré du service public, mais comme participant lui-même à une mission de service public. Et Tuc Duhal-Denis dénonce les méthodes inquisitoriales subies par des établissements sous contrat et hors contrat. La France déteste l'excellence et préfère casser ce qui marche pour s'excuser de ce qui s'effondre. Pourquoi harceler des établissements où les élèves savent lire à l'issue du CP, où les cours de récréation sont tenus, où parfois l'uniforme permet d'effacer les disparités sociales et où le message de Jésus donne un socle de valeur immatérielle à la communauté des enseignants, des parents et des élèves. Alors quelques pages plus loin, Marie de Greffe, qui a piloté ce grand dossier, écrit qu'elle a compris que l'actuel ministre de l'Éducation était en train de réveiller le vieux conflit public-privé qui semblait enterré depuis 1984. Mais derrière l'apaisement de façade, note-t-elle, le bras de fer est réel. Lors d'une intervention au Sénat fin mai, le ministre avait lâché « pas question de fermer une école publique pour laisser le privé se développer ». Alors elle donne la parole à Guillaume Prévost, qui, vous savez, le secrétaire général de l'enseignement catholique, qui déclare « sur fond de recul de la démographie, un certain nombre d'acteurs de l'école publique voient dans l'école privée un concurrent déloyal ». Pour lui, la clé aujourd'hui, c'est de préserver la liberté de conscience, la liberté de choix. L'école peut instruire sur la vie de Mère Teresa ou de Don Bosco ou sur la lecture de l'évangile de Saint-Luc sans entraver la liberté d'un enfant. À cela, on peut ajouter les propos de Michel Valadier, le président de la Fondation pour l'école. Jamais le fossé entre public et privé n'aura été aussi important qu'en cette rentrée de 2026, avec 4878 fermetures de classes par rapport à l'an dernier dans le public et le privé sous contrat. Trois derniers chiffres, Alexandre, que je vous lis. La France compte 12,5 millions d'écoliers, dont 2,1 millions scolarisés dans le privé, soit 18% des élèves. Voilà, à lire tout ce dossier passionnant dans Valeurs Actuelles.
Et alors, depuis quelques jours, on a vraiment l'impression que la campagne présidentielle est déjà lancée. Bruno Retailleau donne maintenant dans le Figaro un entretien dans lequel il dévoile son projet de révision constitutionnelle.
Oui, alors c'est un entretien qui fera date. Hein. Pour le candidat LR, la révision de la Constitution est la mère de toutes les batailles. La prochaine élection présidentielle est celle de la dernière chance. Je veux, dit-il, redonner aux Français le pouvoir de choisir pour que l'État retrouve le pouvoir d'agir. Le peuple français est dépossédé et sans qu'il n'a plus la capacité d'agir sur son destin. Je veux lui rendre la parole, en finir avec la confiscation démographique. Car ce n'est pas le peuple qui a approuvé l'immigration de masse, ce n'est pas non plus le peuple qui a approuvé le laxisme judiciaire. Il faut renverser la table et cela passe par une refondation totale. Alors Bruno Retailleau veut s'inscrire dans la droite ligne du gaullisme en proposant aux Français un pacte constitutionnel qui reposera sur deux textes, un projet de loi de révision constitutionnelle et une charte de l'ordre républicain sur le modèle de la charte de l'environnement. Pour lui, cela passe par un référendum dès la rentrée 2017. Voilà, vous lirez tous les détails dans les colonnes du Figaro.
Et concernant les institutions européennes, quel est son projet ?
Alors il dit ceci, je souhaite que les institutions européennes s'en tiennent à leurs attributions et que les juges internationaux, par exemple la Cour européenne des droits de l'homme, cessent d'interpréter les traités au-delà de ce que les gouvernements ont signé, de ce qui en ont consenti les peuples. Il donne deux exemples concrets. Il n'est inscrit dans aucun traité que l'UE peut se mêler du temps de travail de nos militaires ou des enquêtes de police. Il est même écrit le contraire, ces questions relèvent des États. Il reconnaît que la CEDH nous a interdit d'expulser des individus dangereux au motif qu'ils avaient une vie privée et familiale en France, ou encore parce que leur pays d'origine ne leur offrirait pas de procès équitable. Dans ces cas-là, affirme Bruno Retailleau, je propose qu'une loi organique puisse revenir sur une jurisprudence européenne si elle est contraire à nos intérêts fondamentaux. Voilà, vous lirez le reste dans les colonnes du Figaro sur la sécurité des Français, son idée de la primaire, les critiques sévères prononcées contre Philippe et Attal et l'estime qu'il porte à David Lisnard en lui tendant la main.
Et toujours dans le Figaro, Sylvain Tesson fait l'éloge du livre de Jean-Christophe Buisson, complètement à l'Est.
Oui, alors difficile de lire tel ou tel extrait, car tout se tient dans ce beau travail de critique littéraire entre connaisseurs des frontières à l'Est. Jean-Christophe Buisson, vous savez, c'est le numéro 2 du Figaro Magazine. Alors, je vous citerai plutôt la conclusion de Tesson.
Oui.
Grâce à ce livre, qui est un recueil de chroniques de tous ces voyages, ces reportages à l'Est, grâce à ce livre, quelques lecteurs comprendront pourquoi ils ont choisi d'aimer cette face cachée du monde. L'option slavophile pourrait nous offrir une voie à nous autres Européens américanisés qui avons confondu le mimétisme des mœurs avec l'alliance militaire. Cette fraternité nous prémunirait des aimantations qui écartèlent l'Europe, islam et trumpisme. Ni rouge ni mort, disaient les anti-soviétiques. Ni Yankee, ni Halal pourrait-on renchérir aujourd'hui. Ni wokistes, ni fréristes, complètement à l'Est en somme, non alignés en d'autres termes, buissonnant quoi. Voilà, c'est à lire cette savoureuse chronique dans les pages débat du Figaro.
Et vous avez lu l'entretien donné par Amélie Nothomb à Frédéric Taddeï de Marianne à l'occasion de la sortie de son roman, nouveau roman, L'adolescence du perroquet.
Oui, alors la romancière est elle-même un personnage atypique et Taddeï réussit à lui faire dire des propos hors du commun. Taddeï a sans doute raison de remarquer que dans tous ses livres, il existe une lutte entre le fort et le faible, la beauté et la laideur, le sadisme et la compassion. Et elle de confier ceci, « Je me suis très longtemps vu comme l'archétype de la laideur et je l'ai très longtemps vécu comme une malédiction. Les choses se sont un peu arrangées. C'est vrai que j'ai longtemps vu dans ma propre monstruosité une condamnation métaphysique et une invitation à vivre autrement. » Alors on appréciera cette forme de lucidité sur soi-même car Amélie Nothomb est une sorte de romancière de l'incarnation. Elle semble fascinée par les autres et la recherche de l'autre, elle qui avoue être une très grande amoureuse. Et son amour des perroquets en dit long sur elle. Alors vous verrez en lisant cet entretien lui aussi savoureux dans Marianne qui sort aujourd'hui.
Merci beaucoup Gilles. On vous dit donc à lundi prochain pour votre prochaine revue de presse.
Toute l'équipe de Ligne Droite est en zone libre. Zone libre.
Voilà, c'est la zone libre, il nous reste seulement 1 minute 15, mais j'ai la chance d'avoir Maëlys Clauzel et Richard Dossette. Bonjour Richard.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, est-ce que quelqu'un avait quelque chose à dire en une minute?
Oui, chers auditeurs, si vous êtes déjà partis en Thaïlande, peut-être pour les vacances, eh bien figurez-vous que la Thaïlande est aussi un pays sujet aux découvertes paléontologiques. Voilà, donc si vous aimez les dinosaures, eh bien figurez-vous que là, très récemment, dans un Jurassic Park, donc un parc en fait là où... il y a énormément de fossiles de ces espèces qui ont vécu sur Terre bien avant nous, je crois. Voilà.
J'étais trompé pas trop non plus, ça va. Jusque-là, on est bon.
Oui, même Richard n'était pas né, alors c'est pour dire. Voilà, non, mais en tout cas, il y a plein de statues de dinosaures, donc comme des tyrannosaures et puis d'autres espèces avec des noms absolument imprononçables. Donc
comme le pachycéphalosaure
Peut-être.
Voilà.
Oui, voilà, mais en tout cas des tyrannosaures et tout ce
et
genre de.
En nom de dinosaures, vous êtes opérationnel.
Stégosaure,
oui.
Triceratops.
Paléontosaure.
Ankylosaure. Ouais, ça.
Oui,
vous savez, celui qui est l'espèce de.
Diplodocus.
Brachiosaure.
Voilà.
Plésiosaure. Mosasaure.
Voilà. Archéoptérix.
Archéoptérix, tout à fait magnifique l'archéoptérix par ailleurs.
Ptérodactyle.
Et ptérodactyle, mais très bien. Et écoutez, on finira sur ce mot. Ptérodactyle. Merci Arnaud. Merci Richard et Maëlys d'être venus ce matin. Chers auditeurs, c'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Merci d'avoir suivi cette matinale avec tant d'intérêt. Merci d'avoir été présent avec nous. Simplement, avant qu'on coupe ce direct sur YouTube et sur X, on doit quand même vous dire un mot.
Nous comptons sur vous pour faire perdurer cette belle aventure qu'est Radio Courtoisie. Aussi, nous avons besoin de votre soutien financier. Faites-nous des dons en ligne si vous le pouvez sur soutenir.rc.fr ou bien adressez-nous vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris.
Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, on écoute Tony Bonnaire, nouveau président du Rassemblement National de la Jeunesse, à qui on a demandé comment on pouvait dégauchiser cette génération.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et pour ce premier entretien, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Tony Bonnaler. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes désormais président du Rassemblement National de la Jeunesse. Avant, vous étiez en Seine-et-Marne dans le 77. Vous venez d'être nommé donc, président du RNJ Nouveau Vent Jeune par Jordan Bardella samedi dernier. Déjà, qu'est-ce que cela représente pour vous ?
c'est une grande fierté et un grand honneur surtout. Je vais être à la tête du premier mouvement de la jeunesse patriote de France. Moi, j'ai grandi politiquement dans ce mouvement. J'ai grandi donc dans le RNJ de Pierre-Romain Thionnet, député européen, que je salue et que je remercie énormément pour m'avoir placé le flambeau aussi et pour sa confiance. Et donc, c'est une grande responsabilité et j'en serai à la hauteur.
Et alors, tout d'abord, première question qui se pose évidemment, c'est que vous reprenez donc le RNJ en septembre 2026, l'élection présidentielle c'est en avril 2027, vous le reprenez quand même en cours de route, est-ce que c'est pas un peu tard avant de vous lancer directement en campagne, enfin comment vous allez, ça va être quoi vos premières actions quelque part pour pouvoir directement embrayer sur la campagne ?
On a un mouvement quand même qui est fort de dizaines de milliers de militants. Comme je disais, on est le premier mouvement de la jeunesse patriote de France, donc je ne pars pas de rien. Je pars d'un RNJ façonné par Pierre Romain, connu de ses pairs. Voilà, je pense que c'est quand même... Je pars pas de loin. Hein. Je pars avec une très bonne base militante et puis soutenu par un parti... premier parti de France qui se prépare à prendre le pouvoir. Donc je pense que notre RNJ est prêt. Mes priorités vont être de contacter chaque délégué départemental jeune pour avoir tous les retours de terrain, pour pouvoir s'organiser au mieux et faire en sorte que nous soyons présents partout, dans tous les milieux, pour convaincre les Français, les jeunes Français, en priorité, de voter Marine Le Pen au présidentiel.
Quand on est sur le terrain, c'est quoi la différence entre être un militant RN et un militant RNJ quelque part ? Est-ce que le fait d'être justement jeune, d'avoir, je crois que c'est jusqu'à 35 ans, il me semble, le...
30 ans.
Ouais, jusqu'à 30 ans, pardon. Donc votre mouvement jeune, qu'est-ce que ça change en fait concrètement auprès des gens, même dans les missions que vous assurez ?
Je pense que auprès de plus de 30 ans, c'est un espoir de voir cette jeunesse, de voir un RNJ. Moi, c'était le cas en Seine-et-Marne. À chaque fois, j'avais des adhérents de plus de 30 ans qui même militent au Rassemblement National depuis 30, 35, 40 ans, qui venaient me dire « mais c'est une fierté de voir la relève » parce qu'on se dit qu'on s'est pas battu pour rien. Donc déjà, c'est une fierté pour ces gens-là. Et puis à côté de ça, il y a quoi de mieux qu'un jeune pour parler à un autre jeune ? Je pense que c'est aussi le rôle du RNJ, c'est de cibler les personnes auxquelles on va s'adresser en priorité et également le type d'action qu'on va faire.
Ouais. Alors, on reparlera un petit peu justement de la manière de parler aux jeunes. Simplement, un petit point donc qui a été révélé par la presse, nos grands amis de Libération hier. Donc, hier, un journaliste de Libération a révélé, comme s'il s'agissait d'une sorte de tare, que vous aviez été sympathisant et adhérent du parti Reconquête en 2022, donc du coup, en dernière présidentielle. Dans le fond... ce qu'il faut dire déjà, c'est que pour être tout à fait transparent, c'est un parcours qui a été réalisé par un certain nombre de jeunes du RN qui aujourd'hui sont soit assistants parlementaires, des adhérents, enfin voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes finalement en fait passé d'Éric Zemmour, pardon, à Marine Le Pen après cette campagne de 2022 et quel regard en fait vous portez même sur Reconquête aujourd'hui?
Bien, je pense que déjà, comme je le disais, la Libération, ce n'est pas un crime d'avoir fait partie de Reconquête. Ça sert à rien de me diaboliser pour ça. C'est le camp national de toute manière. Et puis, moi, je pense que quand on est jeune et qu'on adhère pour la première fois à un parti politique, c'est surtout pour le personnage. Et j'ai aussi grandi avec l'Éric Zemmour, journaliste, essayiste, écrivain, que tout patriote digne de ce nom salue, je pense, salue le travail. Et donc voilà, j'ai premièrement adhéré à Reconquête, mais si vous voulez, j'ai vite compris, selon moi, la limite, et puis je me suis vite retrouvé davantage dans le discours de Marine Le Pen au sein du Rassemblement National, auprès de qui j'ai trouvé une véritable famille politique et des amis ensuite. Et donc j'ai fait vraiment un court passage à Reconquête et j'ai pas eu l'occasion de militer pour eux non plus. Donc mais c'est pas un regret ni quoi que ce soit, contrairement à ce qu'essaie de faire penser Libération. Mais voilà, je rejoins aujourd'hui le parti qui tente le plus de rassembler le camp national, le camp patriote.
C'est ce que j'allais vous demander. C'est une question peut-être de nuance, mais c'est vrai que là, avec cette élection qui arrive.
arrive, peut-être que des jeunes vont se poser la question aussi. Enfin, quel parti du camp national je rejoins? Quelque part, vous, qu'est-ce qui vous a fait que ce soit, enfin, en tant que jeune, mais aussi peut-être dans le programme, dans les idées, c'est quoi les distinctions que vous avez préférées donc du RN à Reconquête?
Je pense que le RN a quand même une vision plus pragmatique, plus réaliste aussi pour prendre le pouvoir. Éric Zemmour, il a de belles idées, mais c'est surtout un idéologue. Et on le ressent dans le programme de Reconquête. Et je pense que les Français aujourd'hui peuvent être inquiétés par certains aspects de son discours. Il a fait une mauvaise campagne des présidentielles en 2022. Et je pense qu'il faut, voilà, ce que je veux dire à la jeunesse, c'est que vous avez le camp qui va arriver au pouvoir.
Ouais.
Et à vous de voir si vous y participez dès le départ ou si vous nous rejoignez au second tour. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a une échéance qui est magistrale, ce sont les élections présidentielles de 2027. Elles vont être décisives pour le pays. Il faut être capable, dès maintenant, de s'engager dans la seule force qui peut l'emporter de manière très concrète, qui est en premier, en tête, dans tous les sondages auprès des Français. Et donc voilà, je pense qu'il faut y aller et on peut pas se permettre de se diviser dès le premier tour, ce que je regrette énormément avec Reconquête.
Et alors, c'est vrai que ce que vous parlez du fait que effectivement dans les sondages le Rassemblement National est premier d'ailleurs et donné de gagnant dans toutes les configurations aussi, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Cela étant, mais il y a un chiffre qui est ressorti et que j'ai trouvé finalement un petit peu inquiétant, c'est que en réalité il y a 5 ans le Rassemblement National de la Jeunesse était le premier parti chez les jeunes, avec à peu près, c'était pas exactement il y a 5 ans, c'était il y a 3-4 ans, avec à peu près 35% de votes chez les 18-24 ans, et c'est dépassé même Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il y a plus de 40% d'intention de vote chez les jeunes. Le Rassemblement National est relégué en deuxième place quand même, plus proche du centre que de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas un signe qui est quand même un peu inquiétant, enfin, selon vous, à quoi c'est dû le fait que voilà, les jeunes soient plus à gauche qu'il y a quelques années?
Je pense qu'il faut voir les symptômes. Vous avez une jeunesse qui souffre de la précarité, de l'injustice sociale, qui souffre de voir une France dans laquelle on a de plus en plus du mal à se projeter. Et à cette jeunesse-là, vous avez d'un côté un camp qui propose la réalité, l'amour de la patrie et le fait de se retrouver, même identitairement parlant. Et de l'autre côté, vous avez un camp qui promet un salaire à tous les étudiants. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on est jeune, on peut se dire, ouais, on est vite idéologue. Ah oui, bah, il faut partager tout à tout le monde. Je suis contre la pauvreté, je suis contre
Vous aussi, vous êtes contre la pauvreté.
Ah oui, bah, moi aussi, hein, ça peut paraître fou, mais oui, je suis contre la pauvreté. Et donc, on est vite attiré. Et puis en plus, on vient nous promettre un salaire en étant étudiant. Enfin voilà, je veux dire, quand même, faut faire comprendre à la jeunesse qu'il faut arrêter d'écouter ces discours démagogues, vraiment, qui ne signifient rien. Il faut avoir conscience qu'on est dans un pays aujourd'hui où la dette dépasse les 3500 milliards d'euros. Il faut en avoir conscience. On peut pas, comme dit Jean-Luc Mélenchon, effacer une partie de nos dettes, la mettre au congélateur, je sais même plus le terme qu'il a utilisé. C'est pas possible. Il faut se réveiller. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a un avenir qu'il faut qu'on assure. Et on le fait pas en oubliant ce qu'on doit payer aux gens. Voilà.
Et donc, alors, c'est quoi,
pas tout promettre.
C'est quoi l'argumentaire que vous utilisez justement si vous vous retrouvez face à un gauchiste? Parce que en fait, ça va paraître un peu bête ma question, mais dans le fond, c'est vrai que quand moi je connais des gens, par exemple à la cocarde étudiante, qui est un mouvement d'ailleurs ami du Rassemblement National, qui eux vont tracter par exemple dans les facs et ils me disent ouais, en fait, on va tracter dans cette fac, mais bon, à la Sorbonne, quand on va à Assas, etc. Bon, en fait, on se retrouve face à des centaines de gauche, etc. Comment on fait pour leur parler? Est-ce que c'est possible finalement de convaincre des personnes qui sont aujourd'hui, pas forcément en fac de sociaux, on va pas prendre tout le cliché non plus, mais en tout cas des étudiants de gauche, comment on fait pour les convaincre de dire bah non, en fait c'est Rassemblement National, c'est quand même un peu à l'opposé de leurs idées, enfin la gauche contrôle les universités en majorité en France, on le sait, comment vous faites pour convaincre quelqu'un de gauche?
Bien, déjà, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, les universités, c'est un problème, loin d'être une solution. Les universités sont devenues une chambre d'écho pour l'extrême gauche et où on apprend aux étudiants, littéralement, à avoir honte d'être français, d'être blanc, d'être même hétérosexuel parfois, je veux dire, c'est tout le problème. Et donc, on a une partie de cette jeunesse qui est patriote dans les universités, mais qui est obligée de se taire.
Oui.
Allez, je ne sais pas... aller à la Sorbonne ou à Tolbiac et aller dire dans l'amphi non bah moi je pense pas être de gauche, moi je suis fier d'être français, je suis identitaire, voilà. Allez dire ça, mais c'est la mort sociale. Sans parler des agressions physiques que vous pouvez subir, etc. Je rappelle Quentin Durand, rien que ça, je veux dire. Et il y a cette pression aujourd'hui de l'extrême gauche qui existe dans les amphis. Mais encore une fois, je pense que ce sera le rôle du RNJ aussi d'aller devant les universités avec la cocarde étudiante, avec les syndicats étudiants de droite aussi, il y a l'UNI, et de s'adresser à cette jeunesse qui se tait et de lui dire vous n'êtes pas seul, on est là. Et aussi à cette jeunesse qui est encore un peu perdue ou même qui se sent de gauche, il faut se réveiller. Il faut être fier d'être français, il faut regarder le passé de son pays, envisager son avenir, et on ne le fait pas avec des idées qui viennent tout supprimer et qui sont pour mettre en place une nouvelle France et effacer tout ce qu'on est. On a des racines, il faut en être fier, et c'est ce qu'il faut dire à cette jeunesse aujourd'hui.
Et autre point quand même qui est assez important, je pense quand même, c'est un des grands sujets qui est venu un peu s'installer dans le débat public depuis un an, c'est quand même cette question de du conflit générationnel d'une certaine façon, où on va pas rentrer dans le fond du sujet, mais en fait dans le fond il y a quand même une opposition entre, on le voit, ce qu'on appelle les boomers et ce qu'on appelle les jeunes en général, la génération alpha, la génération Z, peu importe. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ça a révélé une chose. C'est que notre génération, à nous, Tony Bonnaler, c'est une génération qui n'est pas certaine d'avoir sa retraite quand elle aura 60-65 ans. C'est une génération qui ne sait pas si elle va évoluer, si elle va réussir à être propriétaire un jour. C'est une génération qui ne sait pas exactement si elle subira le chômage, si elle subira tout ça, qui est confrontée aux défis écologiques également, qui va avoir des responsabilités à ce niveau-là. Qu'est-ce que le Rassemblement National, votre parti en général, propose pour les jeunes actifs? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour la jeunesse?
Oui, bien sûr, il y a des mesures spécifiques. Marine Le Pen veut permettre... On a une politique familiale, quand même, à prendre en compte. Marine Le Pen veut permettre à tous les moins de 30 ans, déjà, de ne pas se faire matraquer fiscalement par des impôts sur le revenu. C'est déjà un bon moyen de démarrer dans la vie avec un pays qui nous montre qu'il a confiance en nous.
Suppression de l'impôt sur le revenu sur les moins de
30 ans.
D'accord.
On a aussi une politique qui vise à aider les jeunes, on parlait de l'accès à la propriété, à aider les jeunes foyers à avoir accès à la propriété grâce à un prêt à taux zéro qu'on veut mettre en place. Donc vous voyez, on a des mesures très concrètes, mais surtout, les mesures qui vont être à prendre en compte, et il faut en avoir conscience, c'est les mesures qui sont liées à l'immigration massive. Si aujourd'hui, on a l'immigration qui est arrivée, ça fait 40 ans qu'on laisse des flux arriver dans le pays. Et le résultat, c'est que ça a fait baisser les revenus, ça offre une main-d'œuvre... une main-d'œuvre pas chère à nos entreprises, et tout ça vient impacter l'économie, vient impacter notre système économique, et donc ça offre très peu de possibilités d'avenir, de projection pour les jeunes. Et nous, on veut, si vous voulez, incarner une rupture avec ce système qui crée cette précarité étudiante, qui crée cette précarité auprès des jeunes, et aussi ce manque de projection pour chaque jeune. On veut l'arrêter, on veut incarner cette rupture, si vous voulez. Pour ça, il y a des enjeux qui sont... énorme et très concret.
Toute petite question d'actualité qui s'écarte un petit peu de notre sujet, mais est-ce qu'en une minute vous pourriez expliquer la position du Rassemblement National sur le voile, parce que je crois que beaucoup d'auditeurs ne l'ont pas tout à fait comprise, étant donné que faut dire que ça s'est fait en deux temps, votre explication. Donc concrètement, qu'est-ce que le Rassemblement National propose sur la question du voile?
On propose un référendum sur la question de l'islamisme déjà. Le voile n'est qu'une mesure dans ce référendum, et ça, ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, ça a toujours été dans nos programmes, depuis 2012, même bien avant. Et donc, on n'a pas eu de plusieurs discours, comme essaie de faire croire l'extrême gauche. Notre discours est clair, c'est que nous sommes pour lutter contre l'islamisme. On va présenter un projet de loi avec plusieurs mesures aux Français. À l'intérieur de ce projet de loi, il y aura un article qui visera en effet à interdire le voile, le voile intégral dans l'espace public. Et donc, c'est une mesure de bon sens aujourd'hui. Que je crois, avec certains sondages, est porté par 70% des Français. Faut rappeler aussi qu'uniquement 30% des femmes musulmanes pratiquantes portent le voile, et à la base, le voile n'est pas obligatoire dans le Coran. Et on sent aussi cette revendication politique. Moi, je sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux, mais toutes ces jeunes qui sont, même certaines, mais qui ne sont même pas musulmanes, qui se disent, moi, j'ai porté le voile. Vous voyez, il y a un combat idéologique profond à mener. Et on peut pas se dire, comme dit Retailleau, comme dit Attal, on peut pas se dire non, c'est pas le sujet, faut pas l'interdire, il faut essayer de faire un travail de fond. Dans le travail de fond, les idéologues qui sont au pouvoir essaient de le faire depuis 40 ans, ça marche pas. l'islamisme grandit en France, le terrorisme également, et il faut être capable d'avoir des mesures concrètes et de dire et de montrer aussi aux Français qu'on est capable de faire, pas simplement de dire ou de penser. On va faire les choses et on va expliquer à ces femmes musulmanes qui ont une revendication politique, à cet islamisme, même parfois malgré elle, qui n'a pas sa place en France.
Très bien, bah, écoutez, merci de votre clarification. Il nous reste 3 minutes. Tony Bollard, j'ai une dernière question qui... Bon, c'est un petit peu une de mes obsessions quelque part, enfin un de mes sujets à moi, mais généralement on observe quand même que la jeunesse de gauche, on le disait, on la retrouve quand même beaucoup dans les universités. C'est une jeunesse qui est quand même, il faut le dire, bien formée politiquement, dans le sens où elle a des références, elle lit des livres. À côté de ça, la France Insoumise a quand même créé l'Institut La Boétie, qui est donc son organe idéologique quelque part, qui forme lui aussi la jeunesse, qui forme ses cadres. Vous, en 2 minutes, qu'est-ce que vous feriez finalement pour former les jeunes, pour essayer de faire en sorte que les jeunes qui rejoignent le RN se sentent soit une identité, je sais pas, de droite ou pas d'ailleurs, mais peu importe, mais se sentent un corpus d'idées, une culture, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour ça?
Alors déjà, tous les jeunes patriotes qui votent Rassemblement National, je rappelle, il faut adhérer. Adhérer, qu'est-ce que ça permet concrètement? Ça permet d'avoir accès à ce qu'on appelle le campus MRA. Campus MRA, c'est Jordan Bardella qui a mis énormément ce principe en avant. C'est un endroit où le Rassemblement National explique sur le fond ses mesures. Ça permet de se former. Et puis, à côté de ça, mon RNJ fera en sorte que, avec les équipes desquelles je vais m'entourer, fera en sorte qu'on forme nos jeunes cadres. En effet, c'est ce qu'LFI a fait énormément. Nous, Pierre-Romain, nous avait fait d'excellents conseils de lecture pour travailler le fond.
Vous allez refaire ça?
Ah oui, bien sûr. Ce sera peut-être pas aussi qualitatif que celle de Pierre-Romain, mais oui, on va le refaire et puis peut-être s'assurer déjà qu'ils ont lu les livres que Pierre-Romain nous ont conseillés. Mais on va essayer aussi de former nos jeunes sur le concret. C'est-à-dire qu'il faut savoir connaître notre programme, savoir l'expliquer, comprendre nos mesures et puis avoir des réflexes essentiels, parce que quand on va tracter, quand on va boiter, qu'on nous pose la question, oui, bah vous, le Rassemblement National, vous êtes des socialistes. Non, ça faut être capable de l'expliquer. Il faut être capable qu'on a des mesures pour libérer les entreprises de la pression fiscale, que c'est tout sauf socialiste, que là, on prévoit près de 130 milliards d'euros d'économies sur le prochain budget. Jean-Philippe Tanguy a présenté ce budget à l'Assemblée nationale. Enfin voilà, vous voyez, il faut dire à cette jeunesse je vais faire en sorte de m'entourer de personnes qui vont tout faire pour leur donner les armes, pour être prêt à débattre avec qui que ce soit, puisque un jeune qui en convainc un autre, c'est ce qui va changer la donne pour les présidentielles, puisque on va parler de la gauche, etc. Mais le premier parti chez la jeunesse, c'est l'abstention. Ça va être un gros enjeu aussi pour le RNJ pendant cette campagne présidentielle. On va aller chercher les abstentionnistes. On est fort d'un mouvement qui maille énormément le territoire. On est présent dans les milieux ruraux, semi-urbains, contrairement à d'autres partis peut-être. Et donc voilà, ça va être notre objectif. Et puis on va tout faire pour.
Eh bien écoutez, sacré programme, sacrée ambition, Tony Bollard, merci d'être venu chez nous ce matin à Ligne Droite, et sans doute qu'on vous retrouvera durant cette campagne présidentielle pour parler un petit peu justement de la campagne du Rassemblement National. Voilà, d'ici à avril prochain. Merci beaucoup.
Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, c'est la fin de cette matinale pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était un plaisir toujours pour moi de l'animer, comme je le répète chaque matin, simplement pour qu'on puisse continuer à faire ces émissions. Nous avons besoin de garder notre indépendance, et pour la garder, vous êtes notre meilleur garant.
Notre indépendance passe par l'indépendance financière, effectivement, Alexandre. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez le faire en nous faisant des dons en ligne sur soutenir.rc.fr, et puis également envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Merci d'avance.
Voilà, et quel est le programme de la journée, Arnaud?
Alors, vos grands rendez-vous de ce jeudi 3 septembre 2026, dans un instant, Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier. Puis, à midi, vous pourrez suivre en direct le libre journal d'Arnaud Guyot-Janin. À 17h, Sursum Corda de l'abbé Mathieu Raffray. À 17h30, vous retrouverez Marc Hainaut pour une nouvelle édition de Restons Courtois en direct. À 19h30, le bal des facétieux dirigé également en direct par Charles-Henri Deslois. Et puis ce soir à 21h30, en direct toujours, le Libre Journal des Littératures, une émission proposée et dirigée par Hector Burnouf.
Voilà, et demain, vous retrouverez notamment à notre antenne Philippe Murer et Véronique Le Floch. De mon côté, eh bien, je vous dis à demain pour ma chronique blague et je vous dis à mardi en tant qu'animateur. Merci beaucoup.
À demain.